Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous dans cette période quand même fortement bizarre. Voilà presque un mois maintenant que nous sommes confinés. Nous voilà encore obligés aujourd'hui de nous parler à travers un écran. Mais nous voulons nous souvenir d'un élément majeur de notre foi, de notre espérance aujourd'hui. Même si cela pourrait être difficile, nous voulons avoir de la joie dans notre cœur, car Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, est vraiment ressuscité. Si vous avez fait les lectures dans Jean, vous avez pu constater que la joie est bien présente dans les chapitres qui précèdent la crucifixion de Jésus. Bien souvent, à Pâques, nous nous concentrons sur son calvaire, sur le calvaire de Jésus, sur ses souffrances qu'il a subies à la croix à cause de nos péchés. Lui qui était sans péché. Et pourtant, regardez ce que Jésus dit à ses disciples. Il va leur annoncer qu'ils vont être séparés, et puis ensuite qu'ils vont se revoir. C'est ce qu'on voit dans le verset 16, dans Jean 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps et vous me reverrez de nouveau parce que je vais vers le Père. Alors pour nous, ça paraît compréhensible ce passage, on comprend ce qui se passe, mais pour les disciples de l'époque, ils ne comprenaient pas ça. Ils étaient dans le questionnement, ils se posaient plein de questions, ils ne comprenaient pas pourquoi il allait partir, puis qu'il allait revenir, ils ne comprenaient pas qu'il allait être ressuscité. Et Jésus veut les rassurer. Et dans les versets 20 à 24 de Jean 16, c'est là où nous trouvons ces versets sur cette joie qui nous encourage à avoir. Verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue. Quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur à cause de la joie de ce qu'un homme soit venu au monde. Vous donc aussi, vous avez maintenant de la tristesse, mais vous verrez de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera cette joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Quel programme que cette joie! Cette joie, cette résurrection, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, c'est que cette tristesse de la crucifixion, de son calvaire, vont être changés en joie. La résurrection de Jésus doit être notre joie. Mais c'est aussi le fondement de ce que nous croyons. C'est la base de notre foi. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors là, on va avoir un problème. Ça va juste être un simple homme, voire un martyr. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà regardé le film Jésus l'enquête ou lu un livre, parce qu'il y a aussi le livre. L'auteur, Lee Strobel, est un journaliste renommé. Mais il voit sa femme se convertir au christianisme. Et cela ne lui convient pas du tout. Alors, il va mener une vaste enquête pour essayer de démontrer que le christianisme est faux, que le christianisme, c'est un mythe. Et c'est marrant, la première chose qu'il veut attaquer, c'est la résurrection. Il dit que sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. C'est le fondement. Il ne s'attaque pas directement à Jésus, mais il veut vraiment, c'est la base de son livre, s'attaquer à la résurrection. La plupart du temps, le monde n'a pas de problème avec la venue de Jésus, surtout s'il s'agit d'un petit Jésus, un petit bébé dans une crèche. Le monde le fête chaque année, à Noël. Mais le Jésus mort sur une croix pour nos offenses et ressuscité 3 jours plus tard pour notre justification, celui-là, le monde n'en veut pas. Le bébé dans une crèche ne nous demande rien de particulier, rien en retour, c'est juste un cadeau de Dieu pour le monde. Mais un Jésus mort sur une croix pour nos péchés nous oblige à nous remettre en question, à réfléchir à notre état de pécheur, à réfléchir sur le fait qu'on ne peut rien faire pour enlever cette nature pécheresse qui est en nous. Peu importe les bonnes actions que nous pouvons faire, cela n'enlèvera pas notre nature pécheresse. Il n'y a pas une balance avec les bonnes et les mauvaises actions. Non, il y a juste les mauvaises actions. Et peut se battre. Je vois certains non-chrétiens qui se battent pour faire des bonnes actions en ayant l'impression que ça va rattraper toutes les mauvaises. Mais cela est une course qui ne sert à rien. L'élément principal de notre foi, c'est que Jésus a pris notre péché sur la croix, mais surtout qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Nous sommes maintenant justifiés, c'est-à-dire rendus justes aux yeux de Dieu, car il a pris notre péché. Pour autant que nous ayons mis notre confiance en lui et en sa résurrection. La résurrection est le fondement de notre foi. Et c'est pour cela que beaucoup essayent de le détruire, essayent de faire croire que ça n'a pas existé, essayent de faire croire que Jésus a été remplacé. Mais le tombeau est bel et bien vide. Personne n'a retrouvé son corps. Et une grande quantité de témoins l'ont vu. Une grande quantité de témoins où Jésus, après sa résurrection, et ont même pu, pour certains, le toucher pour se rendre compte qu'il était bel et bien ressuscité physiquement. On pourrait même dire que l'Église, notre Église, est encore aujourd'hui un témoin que Jésus est réellement ressuscité. Mais aujourd'hui, on va se plonger dans un texte 1 Corinthiens 15. Ce texte est considéré pour certains comme l'un des 10 textes les plus importants de la Bible. Alors, on ne va pas avoir l'occasion de voir tout ce chapitre, puisqu'il y a 58 versets, mais on va voir les quelques premiers versets. Dans ce chapitre, Paul va devoir éclaircir un point très important, car certains Corinthiens affirmaient que les morts ne ressuscitaient pas. Cela risque de poser un problème, puisque on annonçait aux Corinthiens que Christ était réellement ressuscité. Et dans les 10 premiers versets, Paul va affirmer que cette résurrection est le fondement de la foi chrétienne. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 15, à partir, on va lire les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous demeurez ferme, et par laquelle vous aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes que je vous l'ai annoncé, ou je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors la signification de l'évangile, ça veut dire aussi une bonne nouvelle. Dans certaines versions, vous aurez déjà ce mot « bonne nouvelle » qui est écrit. Il s'agit bien donc d'une bonne nouvelle. Et comme nous l'avons vu plus haut, cela devrait nous réjouir. Cela devrait nous montrer de la joie. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de cette bonne nouvelle? Qu'est-ce que ces quelques versets nous enseignent sur ce qu'est cette bonne nouvelle? Alors, premièrement, cette bonne nouvelle, l'évangile est annoncé. 1. 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la recevoir ou l'accepter. C'est ce qu'on voit un peu plus loin. Troisièmement, il faut demeurer ferme ou fidèle à la parole. Il ne faut rien y rajouter, rien y enlever. Elle doit être retenue dans les termes dans lesquels elle a été annoncée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, quatrièmement, produire en nous une pleine assurance. On va avoir cette garantie que nous sommes sauvés. Mais s'il n'y a pas de résurrection, comme on voit à la fin du verset 2, alors vous auriez cru en vain. S'il n'y a pas cette résurrection du Christ, s'il n'y a pas cette bonne nouvelle, alors nous aurions cru en vain. Et si pas de bonne nouvelle, plus de joie, plus d'espérance. Continuons notre lecture au verset 4 et 5. Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais premier fondement, c'était l'Évangile est annoncé. Ici, qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il annonce l'Évangile. Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai reçu. Ce message de l'Évangile, il faut le transmettre. Il faut le transmettre, comme on l'a vu, comme on l'a reçu, sans rien ni changer. Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Je pense que si parfois nous perdons notre joie, c'est parce que nous ne transmettons pas, nous n'annonçons pas cet évangile. Nous le gardons pour nous dans le fond de notre cœur. Mais cette bonne nouvelle ne peut pas être conservée, elle doit être partagée. C'est déjà notre travail. Et si on manque de joie, c'est parce qu'on ne proclame plus, on n'annonce plus cette bonne nouvelle de Christ ressuscité. Un des éléments aussi qu'on voit toujours, c'est à chaque verset, c'est qui? C'est selon les Écritures. Alors pourquoi est-ce qu'on dit selon les Écritures? Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité afin que nos péchés soient effacés. Comme il a vaincu la mort, il a aussi vaincu notre péché. Et nous avons une espérance éternelle. Et tout ça avait été écrit auparavant. Tout ce qui se passe avait été écrit auparavant. L'Ancien Testament avait été écrit pour que nous comprenions bien ce qui devait arriver. Alors, je ne sais pas si moi, je dois me repentir de ce que, quand j'étais jeune converti, je ne m'intéressais pas à l'Ancien Testament. Je trouvais ça compliqué à comprendre. Mais l'Ancien Testament nous explique ce qui devait arriver. Et si je devais donner une image de l'utilité de l'Ancien Testament, c'est un peu comme si vous arriviez à une réunion. À une réunion de travail ou à une réunion, peut-être à l'église, vous arrivez en retard, vous arrivez au moment de la conclusion. Et au moment de cette conclusion, ben, on a déjà eu tous les débats et vous n'avez pas participé à ces débats et vous ne comprenez pas pourquoi telle conclusion est faite ou pourquoi telle décision est faite. Ou un deuxième exemple, c'est un peu comme si vous preniez un bon roman policier et que vous lisez les quelques dernières pages. Et là, vous ne comprenez pas pourquoi toute cette histoire, toute cette conclusion se passe comme ça, puisque vous n'avez pas lu le début de l'histoire. C'est cela, lire le Nouveau Testament sans lire l'Ancien Testament. C'est arriver comme un cheveu dans la soupe. C'est ne pas comprendre pourquoi telle ou telle chose se passe, ou telle chose est arrivée. Et c'est aussi dans le cas de la Bible, c'est avoir une mauvaise interprétation des faits. Si vous avez lu Jean de nouveau dans nos lectures de la semaine, vous avez constaté que pendant, dans le récit de la résurrection, il y avait beaucoup d'éléments qui expliquaient que c'était écrit et que ça devait se passer comment. Se passer comme ça. Même si dans les faits, lors d'une crucifixion, ce n'est pas comme ça que les choses devaient se passer, mais ça avait été écrit des centaines d'années auparavant, et ça devait se passer comme ça, selon les Écritures. Même Jésus va dire dans Jean 19, verset 28, « Après cela, Jésus qui savait que déjà tout était achevé, dit, « Afin que l'Écriture soit accomplie, j'ai soif. » Il dira aussi que, avant de mourir, accompli. La résurrection de Jésus est certaine. C'est un fait historique qui avait été écrit bien avant. La plus belle preuve, c'est que le tombeau est vide et que personne n'a retrouvé son corps. Comme j'ai déjà dit plus haut, si vous avez envie d'aller plus en profondeur, je vous invite à regarder ou lire le livre de Jésus l'Enquête. Il fait vraiment une énorme enquête. Il va trouver énormément de personnes, il va retrouver des archéologues, il va retrouver même des psychologues, des médecins, pour essayer de démontrer que cette résurrection n'a pas existé. Et pour vous révéler un petit peu l'affaire, comme vous vous en doutez, il ne va pas arriver à détruire ce fait. Et il va même arrêter de se battre et dire que tout ça existe. Il va finir par se convertir. Il y a des éléments qu'il va aussi essayer de démonter, c'est le fait qu'il y ait eu énormément de témoins, une quantité de témoins pour attester que tout ça était bien arrivé. Et c'est ce qu'on lit dans la suite des versets de notre texte d'1 Corinthiens 15, à partir du verset 5. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Il a été vu par 500 personnes à la fois pour attester qu'il était bien ressuscité. Après, eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton. Alors ici, on parle de Paul. Car je suis, moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors Paul, il se voyait comme le moindre de tous, parce que il avait persécuté les chrétiens. Et c'est extraordinaire de voir comment Dieu peut transformer son pire ennemi en un serviteur puissant. Paul était l'ennemi de l'Évangile, il était l'ennemi de cette bonne nouvelle. Et pourtant, Dieu l'a transformé et il est devenu un serviteur puissant pour son œuvre. Et on voit au verset 10 et 11 que si il a été sauvé, c'est par pure grâce. Toujours dans la Corinthiens 15, les versets 10 et 11. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que nous avons cru. C'est par pure grâce que Paul a été sauvé. Paul qui n'avait pas vécu non plus avec les disciples comme les 12. Mais vous aussi, il peut vous sauver par pure grâce. Il peut vous sauver gracieusement ou gratuitement. Pour autant, comme on l'a vu plus haut, que vous l'acceptiez, ce message de l'évangile, ce message de bonne nouvelle. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est l'accepter, le recevoir dans votre cœur. C'est ma prière que tous puissent accepter dans son cœur cette bonne nouvelle de Christ ressuscité pour nos péchés. Pour qu'on comprenne bien encore que cette résurrection est importante, je vais conclure avec quelques versets qui suivent toujours dans 1 Corinthiens 15 sur le fait que cette résurrection est le fondement de notre foi. Le verset 14 nous dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Si Christ, si cette résurrection n'existe pas, si le fait que Jésus ait vaincu la mort, il n'aurait pas, notre foi serait vaine, notre prédication serait vaine. » Et verset 17 « Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous serions encore dans notre péché. » Oui, s'il n'est pas ressuscité, il n'a pas vaincu la mort, il n'a pas vaincu notre péché et nous serions toujours dans nos péchés. Mais nous voulons avoir une espérance éternelle. Et c'est ce qu'on voit au verset 19. « Si ce n'est dans cette, si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si pas de résurrection, nous serions le plus malheureux des hommes. Cela signifierait que nous mettons notre confiance dans ce monde actuel, maintenant, et que nous n'avons aucune espérance éternelle. Qu'est-ce qu'il nous dit, surtout, comme on voit, comme tourne le monde maintenant, comme on voit ce qui se passe pour le moment, si on met notre espérance dans ce monde qui essaye de se débattre péniblement, sans mettre sa confiance en Dieu, nous serions le plus malheureux des hommes. Mais, on l'a vu tout à l'heure, dans Jean 16, les versets 20 à 24, c'est Jésus qui veut quoi ? Une chose. Il veut que notre tristesse, la tristesse de notre péché, soit changée en joie. Et, si nous l'avons accepté, nous avons compris ce message de la bonne nouvelle, nul ne pourra vous ôter votre joie. Et votre joie sera complète ou sera parfaite. C'est cela que la résurrection doit produire en vous, une joie complète. Et je terminerai par le dernier verset de ce chapitre 15, qui est une belle conclusion pour moi. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. La résurrection est, si elle n'existe pas, elle est vaine, mais notre travail pour le Seigneur n'est pas vain. Je relis. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Je vais prier. Jésus, nous voulons croire en ta résurrection. Nous voulons croire que c'est le fondement de notre foi. Par cette résurrection, tu as eu la victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la victoire sur notre péché. Nous voulons recevoir cette bonne nouvelle telle que tu nous l'as donnée. Mais aide-nous aussi, Seigneur, à annoncer cette bonne nouvelle, ce cadeau que nous avons reçu. Nous ne pouvons pas le garder. Aide-nous à avoir cette joie complète, cette joie parfaite, Seigneur, pas cette joie du monde, mais cette joie en toi, Seigneur. Et aide-nous à être ferme, inébranlable, et fais-nous progresser dans ton œuvre, fais-nous progresser dans ton travail, Seigneur, qui n'est pas vain. Et je te remets toutes ces choses au nom de ton précieux Fils. Amen. Et pour terminer, je voudrais vous laisser avec un dernier chant. Alors, Ce dernier show, vous allez peut-être l'avoir un petit peu, hein, un petit peu. En avant-première, il est sorti vendredi pour cette fête de Pâques. C'est le collectif Colessien 316 qui est maintenant s'appelle le collectif Écriture, qui va bientôt sortir un album. Enfin, même dans ces situations un peu bizarres, ils sont un peu, savent pas trop comment ils doivent faire, mais ce chant nous dit Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus vit. Il est vraiment ressuscité. Amen. Thank you.